RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, depuis le verrouillage de la frontière franco-italienne à Vintimille, les exilés qui souhaitent rejoindre la France sont de plus en plus nombreux à se rendre plus au nord pour traverser la chaîne de montagnes des Alpes. Le plus souvent en train, ils partent des camps de migrants pour s'arrêter dans la petite ville italienne de Bardonecchia. Entre cette charmante station de ski et Névache, le premier village français, se dresse un obstacle de taille, le col de l'Échelle, situé à 1760 de mètres d'altitude. Depuis le début de l'année, au moins 1600 migrants ont franchi ce col à pied. Ce sont des hommes, souvent jeunes, plus de la moitié d'entre eux à moins de 18 ans. Ils viennent de Guinée-Conakry, de Côte d'Ivoire ou du Mali et n'hésitent pas à affronter le froid et la neige pour rejoindre la France. L'exil par la montagne, grand reportage signé Alice Posicki.
Vous vous arrêtez plus de marcher jusqu'à ce que vous puissiez vous mettre au chaud. Si vous vous arrêtez dans la montagne, là, il fait tellement froid que vous risquez de mourir. D'accord ? Donc si vous décidez de partir, il faut continuer. Même si vous êtes fatigué, il faut marcher, 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 jusqu'à trouver un endroit où vous mettre au chaud. D'accord ?
Quelques regards inquiets, un oui timide de la tête.
Aujourd'hui, le froid, ça se descend trop.
Ce soir-là, dans la petite gare italienne de Bardonecchia, trois hommes écoutent attentivement les recommandations d'Estelle, une Française très investie auprès des migrants.
Un peu pas.
Maoko, Daoumé et Zachary savent bien ce qui les attend dehors. Quelques heures plus tôt, ils ont tenté de traverser par la montagne.
Et la police, elle vous a raccompagné à la frontière ?
Oui.
Elle vous a laissé dans le froid à la frontière ?
Oui.
Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Ils vous ont dit qu'il fallait repartir en Italie ?
Non, elle a dit qu'on ne peut pas aller parce qu'il n'y a pas de
papiers. Oui, on n'a pas de papiers.
Vous n'avez pas les papiers. Ils vous ont donné un papier, eux ? Ils vous ont donné un papier, la police ?
Nous, on a déchiré ça.
Vous avez déchiré ?
Et il nous a fait pour retourner ici, là.
Eh oui.
Nous, on a déchiré ça.
Quel âge vous avez ? Quel âge tu as, toi ? Ton âge ?
Moi, c'est 16 ans.
16 ans. Et toi ?
Moi, j'ai 19 ans.
19 ans, ok.
Depuis le début de l'année, plus de 800 mineurs ont emprunté cette route. Avachis contre le banc, Maoko, Daoumé et Zachary sont épuisés par cette journée. Transi de froid aussi. Et pourtant, cette fois, les garçons y étaient presque.
Et la frontière, c'est à combien de temps de marche ?
Tu vas faire entre une heure et quelques.
Non,
deux heures et quelques.
Ça va aller 3 heures.
3 heures. 3 heures, frère.
Parce qu'on a quitté 5 heures matin. On est arrivé là-bas 9 heures.
Comme ça.
Les radiateurs en fonte de la gare offrent un peu de chaleur. Mais le réconfort est de courte durée. À 21h, tout le monde dehors. La gare ferme pour la nuit. Le mercure oscille entre moins 5 et moins 10. Alors Estelle et son ami Victor, français lui aussi, ne sont pas venus les mains vides. Ils fouillent dans leur grand sac à la recherche des vêtements les plus chauds possibles.
Il faut que tu mettes plus que ça. C'est pas assez. Tu es pas assez habillé, il fait trop froid. Ok, il faut que tu prennes ça. Tiens, tu peux prendre un bonnet pour la tête. Il faut que tu prennes. Tu as ça ? C'est sûr. Il fait vraiment très froid, il faut que tu te couvres. Tu peux le prendre en plus si tu as besoin.
Casquette sur la tête, écouteurs dans les oreilles, et sur le dos, rien d'autre qu'une légère veste noire en faux cuir. À 21 ans, Mamadou Diala a quitté seul son pays, la Guinée-Bissau. Et c'est encore seul qu'il s'apprête à tenter une nouvelle fois de grimper le col de l'Échelle, le dernier rempart avant la France.
Je n'ai à Guinée-Bissau. Il y a des problèmes là-bas dans la famille, dans le gouvernement, dans la poule. Tout le monde là, il y a beaucoup de problèmes là-bas, chez nous là-bas. Il y a des violences partout, de policiers, il n'y a pas de respect des gens civils. C'est à cause de ça qu'on fuit là-bas.
Mais est-ce que ça mérite que vous preniez autant de risques ?
Oui, bien sûr, parce que c'est mieux. On va prendre le risque, c'est mieux qu'on va rester là-bas en pays là-bas. C'est mieux qu'on prend le risque.
Vous êtes déjà monté sur la montagne là, pour aller en France ?
Oui, on a monté là-bas. Il a passé là-bas plus de 3 fois. On n'a pas réussi ici. Même hier aussi, la nuit, le bord de 4 du matin, on a passé là-bas. Ils ont attrapé là-bas les Français, les gendarmes.
Et qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils vous attrapent ?
Ils disent, vous allez, on a dit qu'on va aller en France. Ils disent, pour faire quoi ? On va pour demander à Asie, parce que ici en Italie, ça ne va pas. qui voulait ici 4 ans, 5 ans, sans documents, sans travail, sans rien de foutre. Sans respect aussi. À la 17h, on est revenu ici aussi, pour tenter encore. Parce qu'il n'y a pas de soir. Comment on va faire? Il n'y a pas de soir. S'il n'y a pas de soir, comment tu vas faire? Tu vas risquer de la vie. Ce n'est pas facile de faire. Il y a de neige, il y a de froid. Mais s'il n'y a pas de soir, comment tu vas faire?
Vous préférez prendre le risque de marcher dans la neige?
Oui, bien sûr.
Que rester ici?
Bien sûr, parce qu'il n'y a pas de soir. Comment on va faire?
Vous connaissez des gens en France?
Non.
Une poignée de kilomètres seulement sépare Bardonecchia de Névache, la première commune française. Avec un véhicule, en suivant la route goudronnée, l'affaire est vite pliée, à peine une quinzaine de minutes. Au volant de sa vieille voiture, les mains bien à 10h10, Victor ne quitte pas des yeux le bitume verglacé. Estelle est assise à l'arrière. Elle aperçoit, au loin, une silhouette qui avance lentement sur la route. La décision est prise de s'arrêter, mais doucement avec les freins. Ça glisse. Sous une veste boutonnée haut, Mamadou, un grand gaillard solide, originaire, lui, de Guinée-Conakry. La mâchoire crispée à cause du froid, il peine à articuler.
Tu veux des vestes et des pulls? Tu es tout seul aussi, toi? Ou il y a d'autres copains dans la brousse cachée?
Je suis un petit devant moi.
Ah, c'est ça, c'est Sidiki, on l'a vu.
Il okay. Est devant.
Oui, il est devant, il est un peu plus haut.
Oui.
Toi, tu es parti après lui?
On était ensemble, moi, il dit avancer un peu pour qu'il puisse le rejoindre après. On était assis dans un coin ensemble, moi, ouais. Il dit avancer d'abord. Après, moi, je le rejoins.
D'accord.
Pendant que Victor et Estelle s'agitent, le jeune homme reste immobile. Il faut dire qu'avec toutes ses couches de vêtements et les mains emmitouflées dans de grandes chaussettes en laine, ses gestes sont limités.
Tu as de quoi manger dans ton sac?
Non.
Tu as rien?
Je veux seulement boire de l'eau.
Tu as de l'eau?
Non. Mais tu peux me faire allumer une cigarette?
En montant, tu vas fumer la cigarette?
Oui.
Et tu peux même pas la prendre?
Non, il met dans ma bouche.
Et c'est tout?
Oui.
Cigarette au coin de la bouche, Mamadou repart en trottinant. Le col de l'échelle est encore loin et haut, 1762 mètres d'altitude. En suivant la route, il reste encore quelques heures de marche. Mais s'il veut éviter les patrouilles de gendarmes, le jeune homme devra prendre des chemins détournés.
Alors mon prénom c'est Jean-Gabriel et mon nom de famille c'est Ravary. Moi je suis guide d'haute montagne depuis 1975, donc y compris dans mon métier, je vois mal ne pas aider des gens dans la galère. Qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, qu'ils votent à droite ou à gauche, ça c'est pas un problème, c'est la loi de la montagne. Et là je te propose de parcourir une partie d'un des chemins des migrants, parce que le chemin le plus facile pour eux, entre guillemets, parcouru par des voitures, c'est la montée au col de l'échelle. Et après, on les voit, moi je me balade beaucoup dans mes montagnes en tant que guide, et je vois des jeunes migrants perdus dans la vallée étroite, à droite, à gauche. Et en fait, ils découvrent des itinéraires au pif.
Avec ses bâtons de marche et son bonnet péruvien, Jean-Gabriel ouvre la voie en direction du col des Tures. Très vite, le chemin de terre devient verglacé, puis enneigé. Sur le plateau, la poudreuse arrive à mi-mollet.
Ben eux, ils vont arriver d'en face. Mais ici, c'est des passages fréquentés l'hiver en raquette ou en ski de rando. Et rien que les traces pour eux, ça peut les induire en erreur.
Pourquoi ?
Ben parce que, comme ils voient des traces de ski de rando ou de raquette, ils ne savent pas ce que c'est à la limite. Mais ça les incite à suivre ces traces, parce que ça porte. Tu vois, il s'enfonce pas, ça fait un guet, quoi. Mais là, déjà, tout de suite, là, à gauche, à 50 mètres, on a déjà un problème avalanche. Le problème avalanche est très compliqué. Plus ça va, plus je me demande si j'y connais quelque chose.
Pourquoi ici, c'est particulièrement exposé au risque avalanche?
Alors, déjà, si tu veux en termes avalanche, il suffit de faire une lecture du terrain. Quand tu vois une pente comme ça, c'est assez caractéristique. La neige ne va pas adhérer sur ces pentes, et ça va couler au fur et à mesure. Par contre, si la neige, par exemple une neige mouillée, qui va coller, ça risque de s'accumuler, mais là, tu es sur une pente qui est éclairée est, et le moindre réchauffement fait que ça va déclencher. Là, tu peux avoir 5 mètres d'épaisseur de neige en bas. Quand un gars mesure 1,80 m qu'il est en dessous, ça pose problème. Tu vois ?
Mais ici, on est à quelle altitude ?
Là, on est à 1600 mètres. Donc, si tu veux, tu rajoutes au froid, tu rajoutes au mauvais matériel. On l'a vu, là, quand il a plu, ils ont des mauvaises chaussures. Il y a quand même le stress, la fatigue. Tu rajoutes ça, ils sont vulnérables.
Clairement, là, dans un mois, quand il y aura déjà bien neigé, est-ce que c'est possible quand même de le faire ou est-ce que c'est 100% de chance d'y rester ?
Alors, il faut distinguer la pratique volontaire comme on fait, où nous, on va choisir, on est équipé, là. On a ce qu'il faut. On a la chance de ne pas être obligé de traverser. On peut faire demi-tour. Par contre, les jeunes, les migrants, hommes ou femmes, ou enfants, quand on les voit déjà arriver fatigués de là où ils arrivent, ils suivent une trace. Il suffit qu'ils arrivent ici à 5 heures le soir. Ils avancent, mais ça va mal finir, ils sont fatigués. Nous, si ça fait froid, on rentre chez nous, on est au chaud, il y a le poil. Si tu veux, ça complique la situation.
Le col de l'échelle passé, les premiers chalets apparaissent. Voici Névache, petit village d'à peine 350 habitants. Mis à part les canons à neige qui préparent les pistes de ski de fond pour l'hiver, la vallée semble déserte. Quoiqu'il semble y avoir un peu d'agitation au pied d'un gîte. Plusieurs habitants solidaires organisent un convoi pour amener un migrant jusqu'à Briançon et ainsi lui éviter plusieurs heures de marche dans le froid. Michel Rousseau est le chauffeur du jour. Il habite à Briançon et fait partie du collectif Tous Migrants.
Là, vous êtes serein ou...
Oui. Bah oui, parce que c'est juste quelque chose de normal, quoi. Ce qui est pas normal, c'est le comportement de l'État et de sa police.
Concrètement, qu'est-ce qui se passe avec la police ?
Bon, il y a des fois, ils arrêtent la voiture, hein, tout simplement. Et ils font ouvrir les coffres, tout ça. Et bien là, comme on vient de voir, là, ils sont plutôt à surveiller les chemins. Ils surveillent moins la route que les chemins. Donc ils essayent d'arrêter des personnes qui seraient en train de. Qui marcheraient, qui pour eux seraient des gens suspects parce qu'ils ont la peau noire.
Philippe Cour est le préfet des Hautes-Alpes.
Quels sont les moyens qui sont déployés pour effectuer ces contrôles ? Qui est mobilisé sur place ?
En fait, les moyens, mais aussi la stratégie, la politique qui est mise en œuvre, ce sont d'abord des moyens qui sont propres. Ils s'appuient d'abord sur les moyens propres au département classique. Ce sont le groupement de gendarmerie nationale et la police aux frontières à Montgenèvre. Et leur action, en fait, elle comprend deux volets qui sont d'ailleurs d'égale importance. Le premier, je viens de vous le décrire, c'est d'appliquer notre droit national et international en refusant l'entrée sur le sol français, lorsque les circonstances le justifient, avec évidemment humanité et discernement, à toute personne qui tente de venir de manière irrégulière. Et l'autre volet tout aussi important que remplissent également, et la mission que remplissent également les forces de l'ordre, à apporter assistance et accueil, parce que nous sommes dans une zone de montagne et que chaque cas auquel nous répondons, chaque décision que nous prenons d'un point de vue administratif, est toujours précédée par une analyse de la situation de la personne et du contexte dans lequel se place le contrôle.
Les températures commencent à être négatives la nuit. Est-ce que raccompagner quelqu'un à la frontière, sachant qu'il passera certainement la nuit dehors ou à Bardonica, est-ce que cette mission d'humanité est respectée ?
La manière dont les forces de l'ordre accomplissent leur mission, elle est remarquable, parce qu'elle est à la fois conforme au droit, mais aussi conforme à nos valeurs et à nos principes. D'abord, je dirais qu'il ne faut pas inverser la charge de la preuve, ni de la responsabilité. Le premier conseil que l'on doit toujours donner, à toute personne, c'est, lorsqu'on veut venir en France, de ne pas violer ses lois. Et donc le premier conseil, c'est que lorsqu'on n'a pas le droit de rentrer en France, ne pas tenter de franchir de manière irrégulière la frontière, surtout en essayant de contourner les dispositifs de vérification et de contrôle qui existent. Il y a un point de passage autorisé, il se trouve à Montgenèvre, c'est là où sont examinées les situations, il est ouvert 24 heures par 24, il faut respecter nos lois, il faut respecter nos lois nationales, nos lois européennes, c'est le fondement même d'une action démocratique.
À l'arrière du véhicule de Michel Rousseau, les mains blotties sous les cuisses, silencieux, un Ivoirien qui souhaite rester discret sur son identité.
Vous êtes dans quel état d'esprit là ?
Là où je suis vraiment beaucoup paniqué. Je ne suis pas tranquille parce que je suis vraiment inquiet pour que je puisse atteindre à ma destination. En étant donc ici inquiet. J'aimerais que non, je puisse atteindre ma destination pour que mon esprit soit tranquillement.
Oui. C'est quoi votre destination ?
C'est juste à rejoindre l'autre ville d'abord pour
voir,
si, pour voir comment les choses peuvent s'améliorer là-bas. Oui.
Vous avez essayé plusieurs fois de passer la montagne ?
Oui. Bon, j'ai essayé deux fois. C'est la troisième fois que j'ai réussi à franchir pour rentrer ici.
Et vous avez quel âge ?
J'ai 22 ans.
22 ans ?
Oui.
Vous êtes venu seul ?
Oui.
Et vous connaissez des gens ?
Non. Bon, en fait, j'étais accompagné par un Guinéen. On a prêté le chemin ensemble, mais arrivé à un compte, on s'est perdu dans la brousse. Lui, il a pris sa route. Moi aussi, je suis rentré seul. Donc, il n'a plus laissé de nouvelles.
À quelques minutes de l'arrivée, Michel demande à son passager de se cacher, allongé entre la banquette arrière et les sièges avant. Tout le monde retient sa respiration. Posté à un rond-point, une équipe de douaniers contrôle des véhicules au hasard.
Ce qui est normal, c'est d'être obligé de se méfier de ceux-là même qui sont censés nous protéger, quoi. C'est le monde à l'envers, quoi. Ça, c'est pas... Dans un état comme le nôtre, c'est grave. Cette dérive, elle est grave.
Là, concrètement, c'est un jeu du chat et de la souris, quoi.
Oui, sauf que malheureusement, c'est pas un jeu, quoi.
Après une demi-heure de voiture, le convoi arrive enfin à Briançon. Une étape de plus dans le périple de ces exilés, un bref répit avant de reprendre la route. L'exil par la montagne, un grand reportage d'Alice Posicki, réalisation Pierre Chaffanjon.
Pour trouver la vie et le savoir et la sagesse.